un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, plus 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Quand il est bon d'être agile, mobile, efficace, quand il est valorisé d'être prompt au changement, performant et rentable, quand il est vieux jeu de chercher du sens à la tâche, mal vu de vouloir du temps pour vivre, quand il est rappelé que le travail est une mise à disposition totale, il y a de quoi angoisser d'en trouver du travail. La narratrice de votre dernier livre, Noémie Lefebvre, veut apprivoiser l'idée du travail, mais comment font les gens ? Et s'il y a de la poésie ou s'il en manque en ces temps d'urgence et de sécurité, voilà ce qui lance un dialogue vif entre elle et son surmoi paternel. Poétique de l'emploi, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions Verticales. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie.
Merci beaucoup d'être là. Cette émission s'appelle « Par les temps qui courent » et il est beaucoup question dans ce texte, comme souvent finalement avec vos textes, de ce « par les temps qui courent », de la question de l'époque, du contexte, des temps dans lesquels nous vivons. Comment est-ce que vous les décririez ?
Ben, disons que je ne les décris pas d'abord. J'en ai une impression, je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on les vit et on les subit à la fois, surtout quand il y a des périodes de tension, des périodes de retour à l'ordre. Donc après, ça demande de les penser. Mais il y a un moment de sidération quand même, et notamment pour ce livre-là qui se déroule sur l'année 2016, qui est un peu une année terrible, la sidération l'emporte et tout le travail a été de penser ce qui est en train de se passer pour essayer de regagner une liberté, en fait. C'est ça le sujet.
Quand vous dites que vous ne les décrivez pas, ces temps-là, ça veut dire que c'est ce premier temps de sidération qui empêche la description et que la description n'arrive qu'à partir du moment où vous êtes donné la possibilité de les penser, où vous avez la possibilité de les penser ?
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, là, il y a un effet extrêmement puissant au choc d'abord des attentats fin 2015, et puis après aux positions du gouvernement, à l'arrivée aussi de l'armée dans la rue, le renforcement de la police, et tous ces moments-là, en fait, où on est un peu abasourdi par une suite d'événements. Et un peu sidéré par ce qui se passe. On n'a pas de pensée vraiment claire dessus. Et souvent, il faut du temps, en fait, pour pouvoir se démêler ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai trouvé ça particulièrement fort sur cette année 2016, où, en fait, il ne se passait pas une semaine sans que un nouvel événement éclate, une nouvelle décision, une nouvelle loi, et qui tout s'enchaînait comme ça, et donnait pas le temps de la réflexion, ni le temps de la discussion, en fait. C'était ça, le problème.
Et c'est des moments où vous êtes en train d'écrire, ou c'est des moments où justement il n'est pas possible d'écrire ?
Et ben c'est le moment où c'est à la fois urgent d'écrire et impossible d'écrire, c'est-à-dire que tout ce qui est... ou alors il faut choisir une posture dans l'écriture qui est pas la mienne, c'est-à-dire une sorte d'indifférence au quotidien, un retrait, ou la croyance que tout va bien quand même, etc. Donc là, moi, ça c'était vraiment trop difficile. Donc en fait, ce sont les sujets même de l'écriture qui se modifient complètement, et ça rejoue le rapport au temps, c'est-à-dire que le temps de l'écriture n'est plus un temps à part et un temps beaucoup plus difficile à conquérir pour rétablir quelque chose qui soit une justesse de l'analyse de ce qui est en train de se passer. Il faut du temps pour être juste avec son jugement sur ce qui se passe. Et ça, c'est difficile, en fait. On est tiraillé entre le besoin de se protéger et puis la nécessité de prendre position aussi, de parler. Donc là, l'écriture, ça devient nécessaire pour qu'elle se rétablisse elle-même, en fait, dans son utilité, elle peut pas rester silencieuse. Mais en même temps, c'est difficile. On peut pas parler des mêmes choses, quoi.
Parce que vous aviez prévu de parler d'autre chose avant de commencer ce texte.
Mais en fait, j'étais plutôt sur une question de du travail. Ça m'intéresse. C'est l'aspect un peu, le grand thème qui peut occuper n'importe quelle époque depuis début 19e et puis qui est pas du tout résolu et qui encombre tout le monde. Donc,
et qui est tellement prégnante aujourd'hui. Voilà, quand même, cette question-là. Tout à fait.
Et donc j'étais déjà sur une question de du travail, du rapport entre le travail et gagner sa vie. En fait, je comprends pas vraiment le rapport entre travailler et gagner sa vie, et je comprends pas vraiment non plus le rapport entre travailler et avoir un emploi. Enfin, c'est des choses qui pour moi sont très brumeuses encore maintenant. Hein, ça n'a pas changé après l'écriture du livre et qui me pose problème en fait. Donc ce sujet-là, il était déjà là. Simplement avec les attentats, puis l'état d'urgence, puis en fait la démonstration de cet état d'urgence dans les rues de Lyon, c'était difficile de penser au travail de façon joyeuse, encore plus difficile, disons, à cette question-là. Et voilà, donc en fait, tout s'est un peu percuté pour fabriquer un personnage qui est en butte avec cette question de quoi faire et comment parler librement.
Et d'ailleurs, on va régler cette question-là, puisque vous parlez d'un personnage. Moi, dans mon introduction, je parle de narratrice, faisant éventuellement correspondre ce que je crois savoir du sexe de l'auteur avec ce que j'ai imaginé être le sexe ou le genre du personnage. Pas du tout.
Voilà, on peut en fait, dans ce personnage, imaginer une fille, un homme. Ça n'a pas d'importance, parce que il n'y a rien qui indique le sexe du personnage. Il n'y a rien qui indique non plus son âge. Il y a très peu d'indications sur son identité. On ne sait pas son prénom, on ne sait pas quel âge il a, on sait très peu de choses sur son parcours. Mais ce qui était intéressant, c'est de fabriquer quand on écrit sans féminiser et sans masculiniser non plus. En fait, on est obligé de fabriquer avec la langue quelque chose qui est toujours dans l'action, puisqu'on peut pas du tout avoir des formes passives. Et donc, le personnage est obligé d'être toujours, même inactif, en action. Et la pensée est en action, chaque chose est en action. Et ça, c'est intéressant à fabriquer. Donc là, c'était un peu ma contrainte oulipienne, qui est pour moi maintenant très utile pour écrire, parce qu'en fait, je suis très encombrée depuis longtemps par le fait que mes personnages sont genrés et que le lecteur, du coup, lit pas de la même manière, surtout tous les contenus qui sont des contenus politiques.
Voilà. Il les déforme de quelle manière, selon vous, les lecteurs ?
Alors, je sais pas, je peux pas parler de tous les lecteurs, je les connais pas personnellement, mais facilement, en fait, en tout cas, moi, c'est peut-être ma génération aussi qui est comme ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à projeter une auteure comme quelqu'un qui manierait facilement le langage de la sociologie, de la politique. Il faudrait toujours un peu rester dans la psychologie, dans des questions qui sont plus de l'intime. C'est difficile de sortir de l'intime ou de signifier en fait que c'est important la parole politique, quel que soit le genre qu'on a. Moi, c'est l'expérience que j'ai aussi avec mon histoire universitaire, c'est que quand vous lisez un article universitaire, il n'est pas genré, il n'est jamais genré parce que c'est toujours sur un objet extérieur à la personne.
Sur un savoir.
Voilà. Et donc, on est débarrassé de cette question. Et s'il y a des questions de rapport féminin-masculin à l'université, c'est plutôt dans les labos que ça se passe. C'est plutôt par des postures, des personnes, mais pas dans leurs écrits. Et quand j'ai commencé à écrire des textes plutôt du côté de la fiction, de la littérature et tout ça, et ben en fait, ça m'est revenu en plein dans l'écriture que cette question de genre, elle encombrait l'écriture et la lecture. Enfin, elle me posait problème.
Donc là, c'est réglé.
C'est une façon de jouer avec ça. Je dis pas que c'est réglé, mais ça me permet aussi de promener le personnage, lui faire des choses que je ferais pas, mais qui appartiennent aussi à une génération plus jeune d'un autre sexe, comme faire des jeux vidéo, Overwatch, des choses comme ça, que je ne pratique pas personnellement, mais je trouve ça intéressant que le personnage puisse le faire.
Bien, alors je vois que vous êtes inscrit, vous avez fait l'inscription en ligne.
Oui.
Voilà, donc vous recherchez un emploi, c'est la première fois que vous recherchez un emploi.
C'est la première fois, oui. Il faut dépasser le statut littéraire du poème pour en faire un acte, un geste qui aurait son efficacité propre dans le monde. C'est ma motivation.
Il s'agit d'actualiser quand même tous les mois votre situation,
hein, oui,
sur le site de Pôle emploi, donc avec vos identifiants et votre code personnel.
Mmh. Je voudrais que ma poésie soit l'expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence.
Et puis accepter les offres qu'on vous propose, les offres raisonnables d'emploi qu'on vous propose, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui peut concerner donc, votre profession.
J'aimerais faire voir que le langage contient des ressources émotives mêlées à ses propriétés pratiques et directement significatives. Ma poésie est une province où le lien entre son et sens de latent devient patent et se manifeste à la manière la plus palpable et la plus intense.
Oui, mais votre poésie est une province, mais vous habitez à Lyon ?
Oui, elle revient finalement à développer une technique de la vision.
D'accord, mais je vous ai posé une question, monsieur. Je vous demandais si vous étiez prêt à bouger éventuellement. Mais
c'est ça, la poésie.
Oui, mais ça, vous ne me répondez toujours pas à ma question. Mais vous avez le permis de conduire ?
Mais la poésie, c'est l'art de mettre en mouvement le fond de l'âme. Donc je ne vois pas
Oui, mais monsieur, vous ne pouvez pas trouver un travail uniquement par le mouvement de votre fond de l'âme. C'est pas... Il faut pouvoir se déplacer de temps en temps, vous comprenez ?
La poésie est un mécanisme de sublimation. Les mots sont assurément la révélation extérieure de ce royaume intérieur de force.
Vous pourriez peut-être... vous avez déjà gardé un immeuble ou travaillé dans la sécurité, par exemple ?
Le domaine de la poésie est illimité.
Mais vous n'énervez pas, je cherche une solution pour vous, vous n'avez pas de raison de me crier dessus.
C'est qu'un poète, ça se fait pas en une civilisation.
D'accord, mais je ne suis pas responsable, monsieur. Je cherche une solution qui soit adaptée à votre situation, c'est pas non plus. Oui. Mon travail n'est pas facile. Hein.
Et le seul devoir du poète est le jeu littéraire par excellence.
En face de poète, il n'y a pas d'emploi actuellement, monsieur, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Hein. C'est-à-dire que ce que vous demandez comme emploi n'existe pas dans la réalité. Hein. Vous avez fait un CV ?
Non.
Mais ça, c'est peut-être la première chose à faire. Qu'est-ce que vous mettriez sur votre CV ?
Poète.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. It's to me.
Noémie Lefebvre, avant que Rayana n'entre dans notre studio, on a fait entrer vos deux voix, à vous et à Laurent Grabe, dans une vidéo que vous avez postée sur votre blog Mediapart, avec un entretien d'embauche un petit peu particulier et qui est presque une sorte de... je sais pas, d'introduction possible à Poétique de l'emploi, votre livre. Alors peut-être nous raconter, je ne sais pas, comment est tissé ou de quoi est tissé cet entretien d'embauche.
En fait, c'est un jeu aussi. C'est d'abord un dialogue que j'ai écrit sans penser forcément à le filmer en vidéo avec Laurent. Mais vraiment, l'idée, c'est cette espèce de décalage entre la vision... la vision entendue de la poésie qui qu'on fête au plan national avec les festivals de la poésie, avec les marchés de la poésie, etc. Et puis donc toute cette manière de magnifier les poètes, et puis en même temps le statut de poète qui est un statut qui n'existe pas, qui est complètement impossible à qualifier. et qui met ce personnage complètement hors du temps, alors même que, en fait, dès que ça devient une profession, ça tombe en poussière. Ça tombe en difficulté d'en parler, ou alors ça devient quelque chose qui est d'artificialisé. Et donc en fait, c'est à chaque fois qu'il y a, en fait, c'est un peu l'idée toute bête de Adorno, c'est qu'il y a la culture administrée et que cette culture administrée, elle vient à la fois, elle fait certainement du bien puisque elle permet de soutenir des projets, etc. Mais en même temps, elle vient comme mettre une chape sur une profession qui est toujours à côté de la plaque, en fait. Si les poètes arrêtent d'être à côté de la plaque, ils peuvent plus être poètes. On peut pas faire de la poésie innovante. On peut pas faire de l'innovation au sens néolibéral avec de la poésie. C'est une stupidité totale. Et pourtant, c'est tout le temps à ça qu'on est ramené. C'est que les arts et la poésie en premier lieu, mais on peut aussi parler de la musique et toutes sortes de choses. Le spectacle vivant, l'art contemporain doivent avoir cette double capacité à être toujours subversif et en même temps totalement au centre même de l'innovation. Au sens industriel en fait et de profit et voilà et de réalisation de la performance. Moi je trouve que c'est amusant de chercher donc là les dialogues sont construits comme ça, c'est que ce sont des extraits de textes qui sont de poètes novalis, enfin je peux pas les citer tous par cœur, je m'en souviens plus, mais en fait ce sont toutes des positions donc il y a Baudelaire aussi sur le poète et ce qu'il doit faire et qui sont si on les met en face de quelqu'un de Pôle Emploi ça tient pas du tout, enfin il faut le faire enfermer en fait ce poète, il peut pas du tout s'intégrer. Donc l'idée même de l'intégration par la poésie c'est complètement fou. Et ça c'est mieux vaut en rire en fait, je trouve, de ces inadéquations et puis aussi de la bonne volonté aussi de Pôle Emploi pour essayer de trouver quelque chose, une solution, un permis de conduire, quelque chose qui aide ce pauvre poète à avoir les pieds sur terre, et ça ne peut pas prendre. Donc ça m'amuse beaucoup. L'inadéquation m'amuse en général.
Vous dites que vous commencez ce texte avec des questions sur le travail, sur aussi d'autres inadéquations, le travail et l'emploi, le travail et gagner sa vie, le travail et une forme de dépendance aussi sociétale. Vous abordez ce texte avec quelles questions nouvelles, parce que c'est pas la première fois que la question du travail, elle vous travaille, c'est le cas de le dire. Là, quelles questions étaient à l'œuvre ?
La question, c'est le paradoxe que... Enfin, c'est pas une question que je porte à moi toute seule, certainement pas, mais qui m'a paru évidente parce que j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années et eux ils sont dans cette perspective là où il faut qu'ils se dirigent vers un travail, mais ça les angoisse autant d'en trouver un que de ne pas en trouver. C'est-à-dire qu'en fait la réalisation par la profession elle est plus comme dans les années 70. C'est en fait ce qu'on propose aux gamins de 20 ans, et c'est pas ce qu'ils ont envie de devenir. Donc, il y a des tas d'entonnoirs qui fonctionnent plutôt mal et dans lesquels il faut qu'ils passent quand même. Et comme ils sont pas stupides, ils voient bien que c'est pas très, très efficace. Voilà. Par exemple, là, j'ai une fille qui est en anthropologie. On lui fait faire des espèces de travaux dirigés, de coaching pour trouver le bon master qui va faire qu'on va trouver ensuite le bon emploi, parce que l'anthropologie, c'est quand même un domaine dans lequel on peut réussir. Bon, je sais pas. Si c'est ça l'anthropologie. Donc c'est ces questions-là en fait, c'est cet absurde-là. Et puis comme il y a eu aussi en 2016 toutes ces manifs loi travail qui ont mobilisé beaucoup beaucoup la jeunesse, beaucoup plus que les trentenaires, les quarantenaires. Et ça dit quelque chose aussi sur ce qu'on leur propose ou ce dans quoi ils veulent pas tomber, rentrer. Ils ont d'autres choses, d'autres imaginaires.
Et en même temps, quand dans certains programmes politiques, il est question de complètement s'en éloigner ou de éventuellement bâtir des vies en dehors du travail, de faire en sorte que peut-être on soit obligé de travailler pour gagner sa vie, c'est présenté comme quelque chose de loufoque. C'est plus possible, comme si c'était plus possible en fait, comme si la machine était trop forte et qu'il n'était plus possible de ne pas travailler.
C'est vrai.
Ça a été très risible, pour donner des noms, mais ça a été très risible le programme de Benoît Hamon qui disait peut-être qu'il faudrait repenser les choses et ne plus forcément avoir besoin de travailler pour gagner sa vie.
Oui, mais la question c'est que le travail, travailler et gagner sa vie sont devenus deux choses qui sont associées de manière
indissociable,
complètement pavlovienne. sans qu'on réfléchisse une seconde sur le rapport entre l'un et l'autre, quoi. Et le fait de gagner sa vie est devenu quelque chose qu'on dit plus tellement d'ailleurs gagner sa vie, on dit réussir. Gagner sa vie, c'est d'abord pouvoir subvenir à ses besoins, mais c'est pas comme ça qu'on l'entend généralement. C'est beaucoup plus faire preuve de son pouvoir social par son niveau de salaire. Or, cette question-là, en fait, c'est un construit occidental majeur, et américain aussi, mais c'est vraiment le monde occidental qui pense comme ça, et c'est bien sûr qu'il répand ça partout, mais pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Pour moi, il y a des gens qui... même la plupart des gens, c'est pas leur fiche de paye qui dit s'ils ont réussi ou pas, voire c'est une honte. Peut-être le moment du renversement de la honte sociale, ce sera quand les gens qui gagnent trop d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui pensent que c'est ça leur valeur, vont plus être acceptés comme des référents. Actuellement, si on gagne beaucoup d'argent, ça reste une référence. Il y a un moment donné où ce sera honteux, peut-être. Ce sera ridicule. Alors là, bon, le monde aura changé.
Dans le livre Poétique de l'emploi, une des premières questions qui ouvre un dialogue entre le personnage et son... Je l'ai appelé son surmoi paternel. Parce que j'ai pas dit son père, mais en tout cas, une des premières questions, c'est de savoir s'il manque de la poésie ou pas. Est-ce que vous partez, alors avec ce que vous disiez tout à l'heure, de la difficulté de dire ce que c'est que la poésie, ce qui n'en est pas, qui est dedans, qui est dehors, mais est-ce que c'est une question qui vous agite ?
Ah oui, bien sûr.
S'il manque de la poésie ou
oui,
pas ?
Oui, bah c'est la question de l'ordre, en fait. C'est si le langage est très fabriqué, parce qu'il il doit participer d'une tension nationale, voire internationale, vers un ordre social, ben forcément que la possibilité poétique est diminuée, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose avec les mots, puisqu'ils sont tout figés d'avance. Donc ça, cette question-là, elle est importante. C'est la possibilité de s'amuser, d'abord, parce que la poésie, elle peut s'amuser avec les mots, d'avoir un langage dissident, de faire bouger quelque chose dans les représentations, de montrer des réalités qui sont pas évidentes, qui sont pas partagées, faire tomber du sens commun. Tout cet aspect-là, quand vous avez pas le temps de penser parce que il faut rester dans une sorte de sidération sur la sécurité, sur l'ordre moral, politique, national, voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour la poésie. Ou alors pour de la poésie qui se présente comme telle, mais qui ne dit rien, donc qui disparaît, qui n'a pas de sens.
Et c'est quelque chose qui, je ne sais pas, me semble lié avec l'idée que, par exemple, on ne peut pas gagner sa vie en étant poète aujourd'hui.
Leçon numéro 1. Poète, ne soumettez personne à la raison d'un père. Leçon numéro 2. Poète, ne cherchez pas la sincérité en poésie. Il n'y a rien dans ce sentiment américain qui puisse être sauvé. Leçon numéro 3. Poète, écrivez des poèmes nationaux. C'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Leçon numéro 4. Poète, n'espérez pas beaucoup d'exemplaires. Un seul, c'est déjà trop. Leçon numéro 5. Poète, si écrire vous est défendu, essayez déjà de vous en apercevoir. Leçon numéro 6. Poète, écrivez si vous voulez des poèmes d'amour en simple liberté, sans vous demander si c'est trop difficile. Leçon numéro 7. Poète, évitez de vous faire assommer au nom de la liberté. Prenez un bain ou regardez un Simpson. Ou si ça va pas mieux, lisez la page 40 de LTI, La langue du Troisième Reich, de Victor Klemperer. Leçon numéro 8. Poète, ne laissez pas empoisonner les mots et tenez-vous loin de la littérature. Leçon numéro 9. Poète, si vous êtes dans une prison, dont les murs étouffent tous les bruits du monde, ne comptez pas à 100% sur votre enfance pour vous sortir de là. Leçon numéro 10. Poète, laissez tomber les alexandrins, sauf si c'est pour vous payer de quoi manger.
Tu donnes des leçons aux poètes ? Non, oui. Et à quel titre ? aucun papa. Quelqu'un t'a demandé un conseil ? Personne. Tu en connais seulement des poètes ? Est-ce que tu connais un seul vrai poète ? Je sais pas, peut-être pas. Et si, par hasard extraordinaire, qui n'est évidemment qu'une hypothèse d'école, il s'avère que c'est un poète, un vrai, un excellent poète à qui tu parles, pourquoi devrait-il, cet excellent poète, avoir besoin de ton avis ? Oui, c'est idiot, papa. Noémie Lefebvre, c'est un extrait de Poétique de l'emploi où, tout au long du livre, il y a des leçons numérotées. Est-ce que vous croyez à toutes ces leçons-là ?
Non, c'est un jeu, en fait. Oui, j'y crois pas. Enfin, c'est pas du domaine de la croyance, c'est du domaine du jeu. Aussi, enfin, c'est vrai que le livre, je voulais un livre court qui soit comme une réplique ou un jeu en écho de
Rilke,
jeune poète de Rilke. Parce que ces lettres, en fait, pour moi, elles sont très intéressantes comme modélisation d'une conception de la poésie qui était très importante, et qui est surtout celle de l'Allemagne du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, donc Novalis, des gens comme ça. Et Rilke, il vient cristalliser, à la fin du 19e siècle, ou tout début du 20e, tous les préceptes qui sont ceux du romantisme allemand. Donc c'est très intéressant en tant que tel. Et ça a eu une durée de vie en France incroyable. Ça a eu un écho, en tout cas, ces lettres de Rilke en France, qui est un peu étonnant, parce que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est que il y a eu tout un cercle, en fait, d'amis de Rilke qui ont découvert sa poésie et découvert les lettres aussi, et qui ont joué un rôle très très important dans la diffusion de ses idées sur la poésie, sur leur conception aussi du poète à la fois seul, mystique, proche de Dieu et de la nature, et toutes ces choses-là qui sont en fait comme des préceptes qui sont gravés dans le marbre pour toujours et qui restent pour notre idée de la poésie encore aujourd'hui extrêmement puissant. Et qui sont peut-être aussi des freins à penser une poésie qui serait plus dans le quotidien, une poésie qui serait plus dans la rue, une poésie urbaine, une poésie de bistrot, une poésie de contact immédiat, et puis une poésie aussi qui est éventuellement futile, provisoire, qui n'aurait pas trop besoin de se prendre au sérieux ou de fabriquer une figure géniale. Et chez Rilke, il y a sur sa figure a été aussi construit tout un mythe de la du poète génial, du poète guérisseur, du poète dont la fin de vie serait comme un miracle, et toute cette mystique autour de lui, en fait, est relativement intimidante. Alors je dis pas que pour moi, ces lettres, elles sont très intéressantes. Hein. C'est pas du tout pour dire je me venge pas de Rilke, puis j'ai pas de leçons à donner aux poètes, contrairement à ce que je prétends dans le livre. Mais c'est beaucoup plus pour rendre fluide, quoi, pour pas patrimonialiser ce que c'est que la poésie. Il y a pas de cours à faire là-dessus.
Voilà. Et alors dans ces leçons qui n'en sont pas, il y a quand même une possibilité ou une invitation qui est à se soustraire à tous les ordres et à commencer par l'ordre raisonnable du père, puisque c'est sur cette question de savoir s'il manque ou pas de la poésie que s'engage un dialogue entre le personnage et son surmoi paternel, parce que ça vous semble être avant celui de la sécurité ou avant celui de l'État l'ordre le plus pesant.
Pour le personnage, en tout cas, ça l'est. C'est vraiment à la fois l'ambiance sociale et politique autour de lui, mais aussi son surmoi qui l'empêche de faire quoi que ce soit à part fumer des pétards et rester couché et lire des livres dont il sait pas du tout ce que ça va lui apporter. Donc la poésie, pour lui, c'est un échappatoire. C'est la solution pour pas aller travailler, pour être en dehors des clous. C'est ce qu'il peut saisir pour retrouver une once de liberté, quoi. Donc c'est là-dessus que ça se joue aussi, et surtout ce qui m'a paru intéressant dans cette histoire de père qui est vraiment le surmoi au sens le plus classique, freudien, lacanien, etc. C'était de faire voir dans le livre que le surmoi, il est quand même relativement libre par rapport au moi. Donc le surmoi, il n'a pas de surmoi, donc il peut faire vraiment, il peut tout se permettre, quoi. et de se rendre compte de l'arbitraire du surmoi, de sa puissance arbitraire et son autorité pure, en fait. C'est l'autorité pure. Et donc, la poésie, elle vient... la recherche poétique du personnage, elle vient déjouer cette autorité pure. Elle vient chercher quelque chose contre ça.
Mais elle est malmenée. C'est une recherche qui est très souvent ridiculisée.
Oui.
Qui est, souvent, ce personnage se voit complètement renvoyé dans les cordes en disant « t'as des leçons à donner, et à qui ? Il y a quelqu'un pour t'entendre vraiment ?» Et va chercher des amis, parle-leur des tilleuls. C'est une recherche poétique qui se bat contre un surmoi beaucoup plus fort.
Oui, beaucoup plus fort. N'empêche qu'il ne gagne pas. Il ne gagne pas à la fin. Donc là, je spoil un peu. Mais non, il ne gagne pas. C'est-à-dire qu'un surmoi très fort, ben oui, on en a tous. Après, c'est plus ou moins visible. On a plus ou moins besoin de consulter pour s'en débarrasser, etc. Mais il y a quelque chose qui, dans la réaction d'accablement du personnage, qui est un accablement... qui se traduit par le fait de la non-action, de l'incapacité même à flâner, l'incapacité à rien, à part à rester...
À être en soirée, à parler avec des amis, tout voilà. Ça est très difficile.
Tout est difficile, donc en fait il va lire essentiellement deux ouvrages qui je ne recommande pas aux grands dépressifs quand même, c'est le journal de Klemperer.
Et mais puis, on va y venir quand même.
Voilà, et Krauss, et c'est par la lecture et le temps de penser qu'on peut construire... une forme de défense et surtout d'activité en face de puissance d'autorité.
Le fait que à la fois le personnage, alors lui, ne soit pas genré, mais que le surmoi le soit, ça aurait pu être un surmoi qui ne soit pas paternel. C'est un surmoi qui est paternel, ce qui peut éventuellement poser la question du patriarcat ou de l'idée qu'il y a un ordre qui est masculin ou masculinisé contre lequel se bat cette recherche poétique.
Ouais, tout à fait. Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment l'histoire occidentale. C'est la famille autrichienne, c'est la famille de Freud en fait. C'est le modèle, c'est l'archétype qu'on retrouve aussi chez Bergman. On retrouve, c'est dans Sarabande de Bergman, on retrouve aussi cette à la fois ces pères qui sont toujours complètement à la ramasse, qui sont traversés par mille choses, mais qui sont d'une autorité fracassante.
Et dans le langage, c'est dans le côté déclaratif et c'est terminé, c'est-à-dire oui. Quelque chose est dit, il n'y a pas grand-chose à dire derrière.
Voilà, c'est ça. C'est la parole qui suffit elle-même, qui s'impose comme parole.
Et qui va avec la question de la puissance du patriarcat, selon
ouais.
Vous.
Ouais, je pense que ça va bien avec ça. Après, je dis pas que certaines femmes sont pas capables d'être très patriarcales. Ça existe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est il faut qu'on on a affaire avec cette histoire.
Et quand vous dites on, c'est qui ?
C'est nous tous, les Occidentaux. Nous qui vivons ici, dans cet endroit.
Et le fait d'avoir affaire avec ça, c'est-à-dire on a affaire, il faut s'en dépatouiller, il faut ouais. Lutter contre, il faut...
Chacun fait un peu sa cuisine. Après, on peut faire des cuisines collectives. On peut aussi en parler. C'est-à-dire, en fait, renverser des systèmes d'intimidation. Quand l'intimidation change de sens... on commence à y voir plus clair. Et en fait, l'intimidation, elle joue sur presque rien, à mon sens. C'est pour ça que je, malgré des moments de lassitude, je suis quand
vous
même
êtes
assez
en fait
optimiste.
Très optimiste.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, les choses se renversent sur presque rien. C'est le moment où ceux qui pensent vraiment avoir autorité et ne cherchent même plus à légitimer se retrouvent absolument dépassés par ce changement d'ordre des choses, par le fait qu'il n'intimide plus.
Et c'est un changement d'ordre des choses, Noémie Lefebvre, qui arrive par exemple dans les livres qu'on écrit. C'est, oui. C'est un possible lieu pour ça, par exemple. Tout à l'heure, vous oui. Disiez, les livres, c'est la possibilité de faire advenir ou de décrire des réalités qui, par ailleurs, ne le sont pas. Ce changement d'ordre des choses, il peut advenir dans des pages, en fait.
Bien sûr. Ben, dès qu'il y a une prise de parole, en fait, qu'il y a une prise de parole qui est une reprise de pouvoir politique, c'est-à-dire de pouvoir d'action par le verbe, par le logos, par un positionnement libre. Parce qu'il n'y a rien qui est plus inquiétant pour le maintien de l'ordre que les gens libres. Ben, il faut essayer de l'être quand même. Et il faut essayer de l'être, puis il faut l'être tout de suite, en fait, c'est ça.
Mais le langage permet cette immédiateté.
Oui, bien sûr.
Proposer à tous... une langue qui érode, qui ramène la totalité sociale vers le bas, est totalement conforme à l'entreprise totalitaire. Cela fait intégralement partie de la mise en ordre des corps. Je pense que ce jargon fabriqué par les nazis, mais d'une façon générale par les régimes totalitaires, a une fonction essentielle, d'une part, de destruction, de dissémination des structures, des formes organisatrices d'une société normale, d'une société traditionnelle, disons, et d'autre part, une fonction de recomposition d'un autre monde social, qui est un monde porté littéralement par ce nouveau langage, qui notamment va permettre toutes les opérations de fuite en avant et toutes les opérations d'installation dans un monde imaginaire. Donc, à ce titre-là, le travail très intense que font les nazis, que fait l'État nazi, que fait la propagande nazie, sur la langue considérée comme une sorte de patte, est un élément tout à fait essentiel dans ces dispositifs de mise en ordre de la société ou de ce que les nazis appellent « Gleichschaltung », c'est-à-dire mettre à niveau, de mise à niveau de la société, ce qui signifie naturellement tirer cette société vers le bas. Donc l'enjeu du langage, dans ce cas-là, comme l'a relevé Klemperer de son observatoire de persécuter, comme dans tout système totalitaire, est un enjeu absolument essentiel.
Schleierwörter. Euphémisme. Evakuierungen. Évacuation pour déportation. Holen. Venir chercher pour arrêter. Melden. Se déclarer pour se rendre à une convocation de la Gestapo. Voit-on apparaître un nouveau jargon judéo-allemand nazi, comme dire Konzertlager, camp de concert, au lieu de Konzentrationslager, camp de concentration. Vocabulaire de l'héroïsme. Il faut être inébranlable du point de vue du caractère. Charakterlich. Un nouvel adjectif créé par les nazis. Kämpferisch. Combatif. Et stur. Obstiné. La plus grande contribution d'Hitler à la langue allemande. Mot nouveau apparu depuis la défaite de Stalingrad. Anfällig. Fragile. Lancé par Goebbels. Notre longue série de victoires a fini par nous gâcher le caractère et nous a rendus ici et là quelque peu fragiles.
Après, j'ai dû passer des mois à lire Klemperer et Krauss, en mangeant des bananes et relire Klemperer, en refumant pas mal. Je me renseignais sur le nazisme à cause du fascisme et sur le fascisme à cause d'une ambiance nationale avec des nuances dans le vocabulaire et des changements de manière. Comme si toutes les haines qui s'étaient retenues avaient le droit de sortir sans honte et sans reproche. C'est un petit extrait nommé Lefebvre de Poétique de l'emploi, juste après qu'on a entendu la voix d'Alain Brossa et un extrait de La langue ne ment pas, de Stan Neumann à propos de Victor Klemperer. Vous le disiez tout à l'heure, le personnage de votre roman lit deux livres. Il lit Karl Kraus et Victor Klemperer. Pourquoi est-ce que vous lui faites lire ces deux livres-là?
D'abord parce que je trouve que ces livres sont absolument indispensable. Enfin, pour moi, pour comprendre dans quel monde je vis, en fait, et puis comprendre d'où vient ce monde dans lequel je vis. Alors, ils parlent, et Krauss et Klemperer parlent d'un temps très spécifique, puisque la troisième nuit de Walpurgis de Krauss, c'est vraiment le début du nazisme, et il répertorie déjà toutes les exactions et les changements aussi qui apparaissent dans la presse autrichienne et allemande, des changements verbaux que Klemperer après va décrypter aussi. Mais c'est vraiment une alerte donnée à son temps sur le nazisme. Et puis Klemperer, il fait vraiment un travail essentiel de survie pour lui, qui est de, à partir de son métier de philologue, de spécialiste de l'histoire du langage, de réfléchir sur les changements parfois extrêmement discrets, des presque rien dans la langue courante, qui marque en fait une idéologisation et une nazification et marque en fait vraiment un tournant très très important dans la pensée allemande, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc ça m'intéressait de chercher en fait à comprendre comment la réflexion sur la langue que mène Klemperer et que menait déjà Krauss vient forcément interroger la poésie comme monde de fabrication de la langue, de libération de soi, de libération des gens par l'accès à leur langue, et puis en même temps décrypter quelque chose qui peut-être se passe aussi avec la langue lorsque d'un seul coup la question de l'ordre, la question de la nation, la question de la surveillance, de la sécurité arrive là et a tendance aussi à fabriquer de la langue, sans que ce soit pour autant le nazisme. Donc ça, je le dis bien aussi dans...
Non, et d'ailleurs, le personnage ne cesse de dire cela s'intéresse au fascisme, au nazisme, au Troisième Reich. Elle ne cesse de dire, il n'y a pas haché, c'est pas du tout l'époque qu'on est en train de vivre. N'empêche que ça me renseigne. Ça me renseigne sur cette époque parce que, et la question du poison des mots et la manière dont on glisse progressivement est presque soulignée dans ce chapitre que j'ai lu. Elle dit, c'est pour tout empirer. Il ou elle dit, pardon, c'est pour tout empirer, c'est pour voir en plus dangereux encore l'époque dans laquelle vit ce personnage et dans laquelle nous vivons, vous vivez, Noémie Lefebvre, vivrait cet empoisonnement progressif du langage.
Je pense que oui, enfin, en tout cas, il faut s'en méfier beaucoup, il faut beaucoup raisonner dessus. Peut-être qu'une des formes inventées en France dans une époque extrêmement récente, enfin relativement récente, ça a été de dire plutôt que de fabriquer une novlangue avec comme l'ont fait les nazis, avec des mots nouveaux, des néologismes, on va juste dire que tout ce qu'on dit, on peut dire le contraire dans la seconde qui suit et ça n'a pas d'importance. Donc la capacité d'effacer systématiquement un discours par l'autre ou de prononcer dans le même discours des choses contradictoires.
Ce qui tue quoi ? Ce qui tue le sens, la responsabilité quant au sens aussi ?
Oui. Ça tue l'importance. Or, les mots, ils sont importants. Enfin, pour moi, c'est important des mots. Ça ne veut pas dire que... je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour l'écriture engagée, ou ni dire je suis un écrivain engagé, c'est pas du tout ça. C'est dire que ce qu'on dit, ça a du sens. Et quand on dit que ça n'en a pas, méfions-nous. Parce que c'est pas bon signe. Et donc c'est aussi ce qu'on dit, c'est quand on dit ça engage, c'est juste aussi dire, mais ça, on fait des promesses quand on parle. On pense, on s'engage pour la suite, c'est-à-dire qu'on fait des projections pour se dire, ce que je dis aujourd'hui, voilà, demain ça peut être discuté par d'autres, et c'est la discussion rationnelle qui va faire que je peux changer d'avis. Et puis si c'est discuté et que j'ai raison finalement, on pourra partir sur cette base-là pour essayer d'avancer vers autre chose. Mais là en fait la discussion n'existe pas. C'est-à-dire que le Parlement déjà il joue pas son rôle puisque on peut passer par des articles pour empêcher que les lois se discutent tout simplement. Toutes ces questions-là, c'est les lieux en fait de discussion démocratique qui sont des lieux aussi où le langage se rejoue pleinement.
Donc ça veut dire que en fait la question de la langue elle fait apparaître la disparition du terrain possible, du terrain collectif, c'est-à-dire si on décide que la langue c'est plus rien et qu'elle peut se dédire et que les mots c'est plus important et que ils peuvent avoir un sens puis un autre, ça veut dire qu'on décide que ce qui est le plus collectif, le plus discutable entre nous, c'est plus rien, il y a plus.
Ben voilà, en fait l'idée c'est que si on a une langue performative, une langue qui fabrique ce qu'elle dit comme des vérités, dans ce cas-là, on abdique sur le fait que y a quelque chose à comprendre et à critiquer. Donc l'espace critique diminue. Et l'espace critique, là, en fait, pour le garder, et même pour le développer, il faut pas se laisser faire, faut être très vigilant, quoi. Et donc faut essayer de chercher avec d'autres des manières de faire émerger des paroles qui sont qui parle du réel. Ça, c'est important. C'est comment on enveloppe des lieux qui sont des lieux de pensée, a priori. On l'école, évidemment, pour les enfants, mais aussi la fac, c'est un lieu de pensée, d'objectifs qui sont pas du tout la pensée, qui sont des objectifs qui ont rien à voir avec la pensée. Mais si on fabrique une nation de gens qui sont, au moment où ils ont l'occasion de penser, de prendre le temps, de lire, de réfléchir, de construire des argumentaires, de mettre en doute leurs idées reçues, si on fait de ces moments-là des moments qui sont contraints par des objectifs complètement idiots comme juste réussir dans la vie, ce qui veut strictement rien dire, à part c'est une pure fiction politique, et ben dans ce cas-là, on fabrique quoi comme avenir, comme idée de possible, d'imaginaire, de renouvellement? On peut rien penser. Si on dit les espèces animales disparaissent, tous les jours il y a des espèces qui disparaissent, il y a des populations qui diminuent. Une fois qu'on l'a dit et que ça change strictement rien, ce qui est le cas, ça change strictement rien, au bout d'un moment, tout perd du sens, puisque l'information change absolument pas la façon qu'on a de fonctionner.
Et alors vous faites lire à ce personnage à la fois Klemperer et Krauss comme des leviers de compréhension. Ce sont des textes qui permettent de comprendre ce qui se passe ou permettre aussi d'agir sur ce qui se passe? Et si ça permet d'agir, dans quel sens?
Alors, ça, dans un premier temps, ça permet peut-être de comprendre certains mécanismes, parce que ça les met à jour de manière extrêmement simple, en fait. Parce que le nazisme, c'est bête et simple. Et parfois, le néolibéralisme est plus complexe. Et il y a plus d'espace de liberté ici et là, etc., qui fait qu'on voit moins ce qui se passe. Donc ça met un peu à nu des choses qui existent toujours. Donc ça, c'est un moment de réflexif qui peut être très accablant. Mais en même temps, une fois qu'on comprend le mécanisme, eh bien forcément, on peut mieux décider d'avoir une posture critique, de s'en sortir aussi. Moi, je pense que Klemperer, s'il a écrit ce journal, et puis après publié, s'il en a publié une partie après la guerre, c'est que penser sur les mots du nazisme, alors même que lui-même pouvait très très difficilement survivre, c'était un moyen de changer les choses. Pour lui, changer sa condition, mais changer aussi une vision, c'est lutter contre une vision générale de l'avenir. Donc voilà, c'est ça, c'est dès qu'on on réfléchit avec d'autres qui ont été instruits par une expérience forte politique et qui ont dû conscientiser quelque chose, ben ça nous aide aussi à réagir et à trouver nos propres sources.
Aussi et en même temps, une grande partie du texte consiste à dire que ce temps de réflexion est absent et qu'il est très très difficile à conquérir et qu'il n'est pas rentable, il n'est pas rémunéré, il ne correspond pas à ce qu'on vend justement dans le package de réussir sa vie, c'est-à-dire que ce temps nécessaire à l'action sur, par exemple, l'empoisonnement du langage, il est à disposition de qui et quand?
Là, il est à disposition de personne, donc il n'y a qu'un choix, c'est tomber en dépression, être assailli par des coups de fil de Pôle emploi, parce que maintenant ils vont chercher les gens, alors, où vous en êtes? Est-ce que vous avez bien cherché un boulot? Voilà, donc en fait il faut essayer de sortir des mailles du filet, se faufiler et être asocial. Donc c'est pas un choix très, très simple, mais c'est vrai que le temps, en fait, ce temps-là de réflexion critique, il est réduit comme une peau de chagrin, donc faut vraiment le conquérir, et le conquérir de manière souvent plutôt difficile.
C'est rude.
Oui, c'est rude. Après, ça peut être joyeux si on est soutenu, en fait, dans cette quête-là. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de pas être complètement tout seul dans cette posture un peu de précarité.
Il y a un prix à payer qui est très fort aujourd'hui dans la position que vous décrivez.
Ben oui, mais je pense que le prix, il est encore beaucoup plus fort quand on prend pas ce temps-là, quoi. Mieux vaut parfois être un gros loser sur Terre, pour au moins avoir le temps de penser. Cause you ain't never had a friend like me. See, at night I watch the sky, I take another breath, I smoke my new boy to the butt like it's the last motherfucker left. Just me and you evading enemies, let you get my last shot of Hennessy. Ain't never had a friend like me. Remember memories so vividly, was once a little dust kicker, now becomes a G. Who can I call when they all fail? Collect calls to my dogs from the county jail, sending me mail, heard the
blocks in the same shape. Ain't nothing changed, niggas slanging at the same place. The same faces, supposed to always hate our foes. This lifestyle is forever, watch the game unfold. Shitting crocodile tears, just got life plus. And you wonder if these white judges like us. Just stay strong, we'll appeal, nigga, you'll be free. Down with you to the very end, cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me.
La connaissance et la vie, point terminé, c'est tout. Si on n'a pas ça dans la tête, je veux dire, on est foutu. D'une manière comme de l'autre, on est foutu. Et ça, c'est une chose que personne n'enseigne, je veux dire, parce que moins il y a de connaissances, plus, je veux dire, plus on peut vous étouffer, quoi. Non, la connaissance, c'est la vie. Alors, bon, le fait de lire, en fait, la connaissance s'acquiert, qu'on le veuille ou non, je veux dire, jusqu'à maintenant, il y a quand même qu'un moyen, c'est quand même le livre, parce que le reste, l'image, je veux bien, enfin, l'image, ça passe. Les mots, pour moi, ont été vraiment un truc... Faut dire une chose, hein, c'est qu'il faut revenir un petit peu comme ça, parce que je veux dire, mes origines ont fait que je n'avais pas à ma disposition de vocabulaire très étendu. Et j'ai, par contre, j'ai rapidement compris que celui qui avait le vocabulaire avait une force formidable, et c'est toujours valable, et ce sera toujours valable. Je veux dire, savoir s'exprimer, bon. Dans différentes conditions, moi, il y a encore des là dans cette une. Je parle de la ville. Hein. Il y a des pans entiers qui m'échappent complètement. Je veux dire, il y a des gens qui par catégorie sociale, ont le facile maniement de l'ironie, par exemple. C'est une force mais considérable. Je veux dire, on vous tue d'un mot, quoi. C'est vrai. Bon, moi, c'est une chose à laquelle je n'ai pas accès, je n'aurai jamais accès, parce que, bon, là, il y a toute une formation, je veux dire, il y a même, je pense même qu'il y a des hérédités, là, vous voyez, une espèce de, pas des hérédités, mais une espèce de continuité sociale qui fait que, bon.
Qui fait que, bon, c'est Louis Calafert, on est en 1987, dans cette archive, Noémie Lefebvre, tout un passage sur la question de l'hérédité sociale, de la manière dont on hérite ou pas d'un vocabulaire, de la puissance que ça donne au départ dans une vie, de la manière dont ça se conquiert aussi, ce vocabulaire. Vous faites dialoguer votre personnage avec son surmoi paternel, voire, de temps en temps, directement son père. Et la question de l'hérédité, de la manière dont les choses se transmettent, y compris d'un point de vue du patrimoine qui ne serait pas un patrimoine langagier, est aussi au centre de ce texte-là. Pour en dire quoi ?
Oui, en fait, cette question de langage, d'abord, j'adore ce que j'ai entendu de Calafert, c'est super émouvant et vrai, quoi, et ça reste vrai, cette question de la connaissance, mais aussi du vocabulaire qui peut ouvrir, fermer des portes,
du sens de l'humour, qui, de l'ironie, voilà, dit-il aussi,
toutes ces nuances en fait qui sont tellement subtiles et qui peuvent aussi accabler ou intimider, mais aussi devenir aussi des armes. Donc chez Calafert, ouais, c'est super beau et très important aussi. Ça, c'est un vrai travail poétique, c'est aussi de déjouer toutes ces constructions qui sont des constructions sociales autour de la langue.
D'ailleurs, il est question de l'art de la conversation, oui. Pour votre personnage, et qui dit bien que c'est un patrimoine social.
Oui, complètement. Bah là, en fait, le surmoi en question, c'est quelqu'un qui est un héritier. C'est une famille qui a des ancêtres, qui est installée, qui a de l'argent, etc. Donc ça le situe. On peut pas parler... On peut pas parler le langage, on peut pas usurper des langages, en fait, à mon sens. On peut changer d'endroit avec le langage, on peut se rapprocher et comprendre d'autres lieux de langage, mais on peut pas se prendre pour un autre avec son langage. Le langage, c'est un fort marqueur. Et le meilleur moyen, à mon avis, de gagner un peu en liberté, c'est d'abord de reconnaître ça. Et ça m'intéresse aussi dans la réflexion, par exemple, sur les manifs de sur la loi travail, c'est que si moi je vais manifester, je peux être solidaire avec des gens de la Vallée de la Chimie à Lyon, mais je fais pas le même travail qu'eux, et je parle pas leur langage, eux non plus le mien. On peut communiquer, on peut se battre ensemble sur pour contre une loi, mais je vais pas me faire passer pour eux dans ce que j'écris. Je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la place où est mon personnage et où je peux être, et puis essayer de mettre en évidence une sorte de critique de cet endroit, une sorte de critique du langage qui est employé.
Mais indépassable. Oui. Mais c'est indépassable.
C'est il faut d'abord le conscientiser et avoir un rapport critique. C'est ça qui permet le dialogue. C'est ça qui permet aussi de passer du temps avec des gens qui parlent tout à fait différemment. C'est parce que moi, je reconnais mon langage comme n'étant pas le langage surplombant universel, mais limité aussi à mon milieu social ou limité à l'endroit où j'ai grandi, etc. Ça, c'est important aussi parce que quand on voit actuellement les tentatives de réforme de l'école, les grandes idées sur les enfants qui savent pas lire, écrire, etc. Mais en fait, les gens, ils savent très bien lire, écrire. C'est simplement, ils savent pas lire et écrire comme certains voudraient qu'ils écrivent et lisent. Mais voilà, il faut aussi pouvoir se déplacer et voir qu'il y a des langages que de jeunes gens à Lyon que je ne peux pas parler, que je peux comprendre, avec qui je peux communiquer, mais eux, ils ont une vraie virtuosité, que ce soit les rappeurs, que ce soit les gens qui vivent dans certains quartiers où soi-disant on n'a aucun avenir social, mais en fait ils sont beaucoup plus forts, parce que je pense qu'en France on a loupé un coche, c'est celui de Montaigne, qui est peut-être l'homme le plus important pour réfléchir sur le rapport entre diversité, différence et égalité. Parce que pour Montaigne, la différence, c'est ce qui fabrique de l'égalité. Et pour nous, en fait, la différence, c'est ce qui fabrique de la hiérarchie, aujourd'hui. Et donc l'égalité doit être uniformisée. Et donc dès qu'on réfléchit sur les mondes sociaux, on réfléchit toujours en termes d'intégration sociale, sous forme hiérarchique. Donc il faut revenir à Montaigne, à mon avis.
Alors on revient à Montaigne, à Klemperer, à Krauss, entre autres, grâce à ce texte poétique de l'emploi. Merci beaucoup Noémie Lefebvre, c'est publié chez Vertical. Comme on a parlé beaucoup, on n'a pas du tout parlé de La mer gelée. C'est une revue bilingue dont le numéro actuellement en vente est consacré à maman ou mama, selon la langue dans laquelle on parle. Merci beaucoup.
Merci.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne beaucoup, beaucoup d'espoir ?
Les manifs.
Par les temps qui courent, quel livre garder grand ouvert ?
Montaigne.
Et par les temps qui courent, quelle porte casser ?
Celle de prison.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur le site internet franceculture.fr ou en podcast, évidemment. C'était Alexandre Dang au son ce soir, Lise-Marie Barré à la réalisation. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre m'aident à penser et préparer cette émission. Je réponds @MarieRicheux sur Twitter. Place where everybody knows.